Chapitre 2. Cassette numéro 53.
1969. Ça commençait par un grain de beauté au niveau du cou. Quand il enfilait sa chemise, le col le frottait et ça le dérangeait. Pourquoi on les appelle grains de beauté alors que ce sont des lésions cutanées? Ça, je ne me l'expliquerai jamais. Personnellement, je les hais. « J'en ai plein, ma fille, cette famille !» grognait-il quand je lui disais de consulter. J'observais ce truc sur son cou, que j'ai fini par trouver vilain, de plus en plus rouge. Et puis le truc grossissait quand Mokhtar maigrissait. Il était vraiment beau, Mokhtar. Il était de la race des seigneurs. Il se tenait droit, fier de son métier. Il avait de belles valeurs. Il disait jamais de mal. Mais il n'était pas dupe. Combien de fois son œil pétillant s'est posé sur moi, l'air de dire des choses drôles sans un mot. Surtout quand un client pénible ou méprisant jetait de la monnaie sur le comptoir après avoir récupéré une paire de chaussures. Il était discret et simplement élégant avec la vie. Quand je pense qu'il a pris Jean chez lui et qu'il a cassé sa tirelire pour ça, alors qu'il économisait depuis des années pour faire le voyage. Quelle générosité! Mais il était plus têtu qu'une bourrique. D'où je vais aller chez un docteur pour montrer un bouton? Il a tamponné sa saloperie pendant des mois avec du synthol. Ça désinfecte, c'est bien pour tout. Il a fini par aller chez le médecin à contre-cœur, mais beaucoup trop tard. À la fin, ça le démangeait tellement que je ne lui ai pas laissé le choix, pour la première fois depuis que j'étais entrée dans sa cordonnerie. J'ai pris rendez-vous et je l'ai accompagné pour être sûre qu'il y aille. Déjà dans la salle d'attente, j'étais mal. Lui faisait semblant de lire un magazine, mais je sentais son angoisse. Jamais il l'aurait avoué. Un homme, ça n'a pas peur. Laborie, le prédécesseur du docteur Pierry, a fait la gueule quand il a vu la taille et la forme du mélanome. Il m'avait donné la permission d'entrer dans son cabinet. J'étais assise devant le bureau, eux, dans la pièce d'à côté. J'ai pas vu la tête du médecin, mais j'ai entendu son silence. Un très long silence. Et sa voix, bien trop grave. On va retirer ça tout de suite, monsieur Behram, j'appelle l'hôpital. Quand ils sont revenus s'asseoir, Mokhtar a détourné le regard. Il avait compris. C'est moi qui remplissais ses chèques, il les lui signait. J'ai eu du mal à le remplir, celui-là. Ma main tremblait. Les larmes que je retenais m'empêchaient de voir ce que j'écrivais. À l'époque, Jean était parti vers son piano et je savais déjà que dès qu'un artiste est dans sa passion, on le perd. J'avais plus de nouvelles de Blaise. Me restait que Mokhtar, mon pilier, mon soleil, mon maître, ma vie. Je peux le dire aujourd'hui, mon véritable père. 3 jours après cette consultation, il a été opéré. Mais c'était trop tard, les ganglions de la gorge étaient touchés. Le cancer s'était développé. On lui a proposé un traitement de cheval localisé pour attaquer les métastases, à quoi il a répondu « J'ai une tête de cheval ». Et il a tout refusé. Et il a continué à travailler tous les jours comme si de rien n'était. Dès que j'évoquais son cancer, il se refermait. D'abord, il a gobé des cachets d'aspirine pour tuer sa douleur. C'est moi qui allais les chercher à la pharmacie. Puis d'autres cachets beaucoup plus forts. Il s'est affaibli. Mais il a continué à travailler. Ça a duré 9 mois entre l'opération et le dernier jour. Tous les matins, je le retrouvais devant son établi. On cassait la croûte vers midi. Il faisait sa sieste dans l'ottomane. Il écoutait la radio. Et aux informations, il jurait toujours dans sa langue quand un homme politique parlait. Le soir, je préparais notre dîner. Il me donnait des instructions pour quand il serait plus là. Il me demandait de tout noter. Ce que j'ai fait dans un cahier d'école. Jusqu'au bout, il a continué à m'accompagner au match et à rejoindre le père Aubry chaque matin pour boire son café. Et puis, un matin, il ne s'est pas levé. Il n'a pas ouvert le magasin. J'avais un double des clés de chez lui, je ne les avais jamais utilisées. Un premier client est arrivé et a trouvé la porte fermée. « Crois-moi si tu veux, Mais c'était le fils du propriétaire de la cordonnerie qui venait de s'installer à deux pas de chez nous, rue Saint-Pierre. Un garçon de mon âge. Il avait un sac en plastique blanc dans la main avec une paire de bottes noires qui dépassaient. On avait tous les deux 23 ans. J'ai appelé personne. Je me suis assise sur la première marche de l'escalier qui menait à la porte de la maison de Mokhtar. Et j'ai pleuré. Le garçon est venu s'asseoir à côté de moi. Il avait une bonne bouille et l'air si gentil avec ses grandes billes bleues. Il m'a tout de suite inspiré confiance. « Comment tu t'appelles ?» j'ai demandé. « Louis. »« T'as pas peur des morts ?» Il a eu l'air terrorisé. « S'il te plaît, monte avec moi, Louis. » Il m'a suivi, mais de loin. J'ai ouvert la porte avec difficulté. Je tremblais encore plus que le jour où j'avais rempli le chèque. Louis est resté derrière moi. Je lui ai demandé de m'attendre sur le palier. Je suis entrée toute seule. J'ai vu un tas de médicaments sur sa table de nuit. Je pense qu'il a mis fin à ses jours ou qu'il a augmenté la dose d'antidouleur pour plus souffrir. Et son bon cœur, son grand cœur, l'a lâché. Mon roi s'était éteint.
Elle ne coupe pas l'enregistrement, mais laisse passer de longues minutes avant de reprendre la parole. Elle ne fait pas un bruit. Elle a dû rester là, près du magnétophone, sans parler, sans bouger.
Quand je suis ressortie, je me suis réfugiée dans les bras de Louis. Le jour où j'ai perdu Mokhtar, j'ai rencontré Louis Berthéol. Je ne le savais pas encore, mais le jour où j'ai pensé tout perdre, j'ai pas tout perdu. J'ai emprunté de l'argent à la marquise pour envoyer le corps de Mokhtar dans son pays. Je voulais qu'il repose avec son frère, près des siens. Je l'ai remboursé jusqu'au dernier sou pendant 10 ans, jusqu'en 1979. Jean n'en a jamais rien su. Personne n'en a jamais rien su. C'est la première fois que je le dis à quelqu'un. La suite, tu la connais. J'ai repris la location de la maison et du magasin. J'ai emménagé chez Mokhtar, dans ce lieu que tu n'aimais pas. La tête que tu faisais quand tu débarquais.
Elle étouffe un rire.
Et j'ai gardé sa cordonnerie jusqu'en 2007. J'ai perpétué sa mémoire. Et après moi, Louis, qui a hérité de ses parents, a continué à louer à des cordonniers. La famille de Mokhtar l'a mis en terre à Tunis, au cimetière du Djellaz. En 1986, sa sœur m'a envoyé une photographie de la tombe avec tous les membres de la famille autour. Tu la trouveras à la dernière page de ma collection, dans le livre de la saison 1981-1982. Et aussi dans le cahier d'école sur lequel j'ai noté ses instructions pour quand il serait plus là. S'il te plaît, Agnès, quand je rejoindrai Jean et Anna, fais graver Colette Septembre Béram sur notre stèle.
Liste des choses à faire pour quand Mokhtar sera plus là. Je fais semblant d'écrire, 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 je fais semblant d'écrire.